Elle continuait à fumer en marchant, et il la regardait toujours, ne trouvant rien à dire pour la remercier, heureux d'être près d'elle, pénétré de reconnaissance et du bonheur sensuel de cette intimité naissante. Il lui semblait que tout ce qui l'entourait faisait partie d'elle, tout, jusqu'aux murs couverts de livres, les sièges, les meubles, l'air où flottait l'odeur du tabac avait quelque chose de particulier, de bon, de doux, de charmant qui venait d'elle. Brusquement, elle demanda « Qu'est-ce que vous pensez de mon amie, Madame de Marelle ?» Il fut surpris, mais je la trouve très séduisante, n'est-ce pas ? Oui, certainement. Il avait envie d'ajouter « Mais pas autant que vous. » Il n'osa point. Elle reprit « Et si vous saviez comme elle est drôle, originale, intelligente ? C'est une bohème. Par exemple, une vraie bohème. C'est pour cela que son mari ne l'aime guère. Il ne voit que le défaut et n'apprécie point les qualités. » Duroy fut stupéfait d'apprendre que Madame de Marelle était mariée. C'était bien naturel, pourtant. Il demanda « Tiens, elle est mariée ? Et qu'est-ce que fait son mari ?» Madame Forestier haussa tout doucement les épaules et les sourcils d'un seul mouvement plein de signification incompréhensible. « Oh, il est inspecteur de la ligne du Nord. Il passe 8 jours par mois à Paris. Ce que sa femme appelle le service obligatoire. Ou encore, la corvée de semaine. Ou encore, la semaine sainte. Quand vous la connaîtrez mieux, vous verrez comme elle est fine et gentille. Allez donc la voir, un de ces jours. » Duroy ne pensait plus à partir. Il lui semblait qu'il allait rester toujours, qu'il était chez lui. Mais la porte s'ouvrit sans bruit, et un grand monsieur s'avança, qu'on n'avait point annoncé. Il s'arrêta en voyant un homme. Madame Forestier parut gênée une seconde, puis elle dit, de sa voix naturelle, bien qu'un peu de rose lui fût montée des épaules au visage, « Mais entrez donc, mon cher. Je vous présente un bon camarade de Charles, Monsieur Georges Duroy, un futur journaliste. » Puis, sur un ton différent, elle annonça « Le meilleur et le plus intime de nos amis, le comte de Vaudrec. » Les deux hommes se saluèrent en se regardant au fond des yeux, et Duroy tout aussitôt se retira. On ne le retint pas. Il balbutia quelques remerciements, serra la main tendue de la jeune femme, s'inclina encore devant le nouveau venu, qui gardait un visage froid et sérieux d'homme du monde, et il sortit tout à fait troublé, comme s'il venait de commettre une sottise. En se retrouvant dans la rue, il se sentit triste, mal à l'aise, obsédé par l'obscure sensation d'un chagrin voilé. Il allait devant lui, se demandant pourquoi cette mélancolie subite lui était venue. Il ne trouvait point, mais la figure sévère du comte de Vaudrec, un peu vieux déjà, avec des cheveux gris, l'air tranquille et insolent d'un particulier très riche et sûr de lui, revenait sans cesse dans son souvenir. Et il s'aperçut que l'arrivée de cet inconnu, brisant un tête-à-tête charmant où son cœur s'accoutumait déjà, avait fait passer en lui cette impression de froid et de désespérance qu'une parole entendue, une misère entrevue, les moindres choses parfois suffisent à nous donner. Et il lui semblait ainsi que cet homme, sans qu'il devinât pourquoi, avait été mécontent de le trouver là. Il n'avait plus rien à faire jusqu'à 3 heures, et il n'était pas encore midi. Il lui restait en poche 6,50 francs. Il alla déjeuner au Bouillon du Val. Puis il rôda sur le boulevard, et comme 3 heures sonnaient, il monta l'escalier réclame de la vie française. Les garçons de bureau, assis sur une banquette, les bras croisés, attendaient. Tandis que derrière une sorte de petite chaire de professeur, un huissier classait la correspondance qui venait d'arriver. La mise en scène était parfaite pour en imposer aux visiteurs. Tout le monde avait de la tenue, de l'allure, de la dignité, du chic, comme il convenait dans l'antichambre d'un grand journal. Duroy demanda « Monsieur Walter, s'il vous plaît ?» L'huissier répondit « Monsieur le directeur est en conférence, si monsieur veut bien s'asseoir un peu. » Et il indiqua le salon d'attente, déjà plein de monde. On voyait là des hommes graves, décorés, importants, et des hommes négligés, au linge invisible, dont la redingote fermée jusqu'au col portait sur la poitrine des dessins de taches rappelant les découpures des continents et des mers sur les cartes de géographie. Trois femmes étaient mêlées à ces gens. Une d'elles était jolie, souriante, parée et avait l'air d'une cocotte. Sa voisine, au masque tragique, ridé, parée aussi d'une façon sévère, portait ce quelque chose de fripé, d'artificiel qu'ont, en général, les anciennes actrices. Une sorte de fausse jeunesse éventée, comme un parfum d'amour ranci. La troisième femme, en deuil, se tenait dans un coin, avec une allure de veuve désolée. Duroy pensa qu'elle venait demander l'aumône. Cependant, on ne faisait entrer personne et plus de 20 minutes s'étaient écoulées. Alors Duroy eut une idée et, retournant trouver l'huissier, « Monsieur Walter m'a donné rendez-vous à 3 heures, » dit-il. « En tout cas, voyez si mon ami Monsieur Forestier n'est pas ici. » Alors on le fit passer par un long corridor qui l'amena dans une grande salle où 4 messieurs écrivaient autour d'une large table verte. Forestier, debout devant la cheminée, fumait une cigarette en jouant au bilboquet. Il était très adroit à ce jeu et piquait à tout coup la bille énorme en buis jaune sur la petite pointe de bois. Il comptait 22, 23, 24, 25. Duroy prononça 26 et son ami leva les yeux sans arrêter le mouvement régulier de son bras. « Tiens, te voilà. Hier, j'ai fait 57 coups de suite. Il n'y a que Saint-Potin qui soit plus fort que moi ici. As-tu vu le patron ? Il n'y a rien de plus drôle que de regarder cette vieille bedole de Norbert jouer au bilboquet. Il ouvre la bouche comme pour avaler la boule. » Un des rédacteurs tourna la tête vers lui. « Dis donc, Forestier, j'en connais un à vendre, un superbe, en bois des îles. Il a appartenu à la reine d'Espagne, à ce qu'on dit. On en réclame 60 francs, ça n'est pas cher. » Forestier demanda « Où loge-t-il » Et comme il avait manqué son 37e coup, il ouvrit une armoire où Duroy aperçut une 20aine de bilboquets superbes, rangés et numérotés comme des bibelots dans une collection. Puis, ayant posé son instrument à sa place ordinaire, il répéta « Où loge-t-il, ce joyau ?» Le journaliste répondit « Chez un marchand de billets du vaudeville. Je t'apporterai la chose demain, si tu veux. »« Oui, c'est entendu. S'il est vraiment beau, je le prends. On n'a jamais trop de bilboquets. » Puis, se tournant vers Duroy, « Viens avec moi. Je vais t'introduire chez le patron. Sans quoi tu pourrais moisir jusqu'à 7 heures du soir. » Ils retraversèrent le salon d'attente, où les mêmes personnes demeuraient dans le même ordre. Dès que Forestier parut, la jeune femme et la vieille actrice, se levant vivement, vinrent à lui. Il les emmena, l'une après l'autre, dans l'embrasure de la fenêtre. Et, bien qu'ils prissent soin de causer à voix basse, Duroy remarqua qu'ils les tutoyaient l'une et l'autre. Puis, ayant poussé 2 portes capitonnées, ils pénétrèrent chez le directeur. La conférence, qui durait depuis 1 heure, était une partie d'écarté avec quelques-uns de ces messieurs à chapeau plat que Duroy avait remarqué la veille. Monsieur Walter tenait les cartes et jouait avec une attention concentrée et des mouvements cauteleux, tandis que son adversaire abattait, relevait, maniait les légers cartons coloriés avec une souplesse, une adresse et une grâce de joueur exercé. Norbert de Varenne écrivait un article, assis dans le fauteuil directorial, et Jacques Rival, étendu tout au long sur un divan, fumait un cigare, les yeux fermés. On sentait là-dedans le renfermé, le cuir des meubles, le vieux tabac et l'imprimerie. On sentait cette odeur particulière des salles de rédaction que connaissent tous les journalistes. Sur la table en bois noir, aux incrustations de cuivre, un incroyable amas de papier gisait. Lettres, cartes, journaux, revues, notes de fournisseurs imprimées de toute espèce. Forestier serra les mains des parieurs debout derrière les joueurs et sans dire un mot regarda la partie. Puis, dès que le père Walter eut gagné, il présenta « Voici mon ami Duroy ». Le directeur considéra brusquement le jeune homme de son coup d'œil glissé par-dessus le verre des lunettes, puis il demanda « M'apportez-vous mon article ? Ça irait très bien aujourd'hui, en même temps que la discussion Morel. » Duroy tira de sa poche les feuilles de papier pliées en 4. « Voici, monsieur. » Le patron parut ravi et, souriant, « Très bien, très bien. Vous êtes de parole. Il faudra me revoir ça, Forestier. » Mais Forestier s'empressa de répondre « Ce n'est pas la peine, monsieur Walter. J'ai fait la chronique avec lui pour lui apprendre le métier. Elle est très bonne. » Et le directeur, qui recevait à présent les cartes données par un grand monsieur maigre, un député du centre-gauche, ajouta avec indifférence « C'est parfait, alors !» Forestier ne le laissa pas commencer sa nouvelle partie et, se baissant vers son oreille, « Vous savez que vous m'avez promis d'engager du roi pour remplacer Marambeau. Voulez-vous que je le retienne aux mêmes conditions ?»«
Oui, parfaitement. »
Et, prenant le bras de son ami, le journaliste l'entraîna pendant que M. Walter se remettait à jouer. Norbert de Varenne n'avait pas levé la tête. Il semblait n'avoir pas vu ou reconnu du roi. Jacques Rival, au contraire, lui avait serré la main avec une énergie démonstrative et voulue de bons camarades sur qui on peut compter en cas d'affaire. Ils retraversèrent le salon d'attente et, comme tout le monde levait les yeux, Forestier dit à la plus jeune des femmes, assez haut pour être entendu des autres patients, « Le directeur va vous recevoir tout à l'heure. Il est en conférence en ce moment avec deux membres de la commission du budget. » Puis il passa vivement d'un air important et pressé, comme s'il allait rédiger aussitôt une dépêche de la plus extrême gravité. Dès qu'ils furent rentrés dans la salle de rédaction, Forestier retourna prendre immédiatement son bilboquet et, tout en se remettant à jouer et en coupant ses phrases pour compter les coups, il dit à Duroy « Voilà, tu viendras ici tous les jours à 3 heures et je te dirai les courses et les visites qu'il faudra faire, soit dans le jour, soit dans la soirée, soit dans la matinée. 1. Je vais te donner d'abord une lettre d'introduction pour le chef du premier bureau de la préfecture de police. 2. Qui te mettra en rapport avec un de ses employés. Et tu t'arrangeras avec lui pour toutes les nouvelles importantes. 3. Du service de la préfecture, les nouvelles officielles et quasi-officielles, bien entendu. Pour tout le détail, tu t'adresseras à Saint-Potin, qui est au courant. 4. Tu le verras tout à l'heure ou demain. Il faudra surtout t'accoutumer à tirer les vers du nez des gens que je t'enverrai voir. 5. Et à pénétrer partout, malgré les portes fermées. 6. Tu toucheras pour cela 200 francs par mois de fixe, plus 2 sous la ligne pour les échos intéressants de ton cru 7, plus 2 sous la ligne également pour les articles qu'on te commandera sur des sujets divers 8. » Puis, il ne fit plus attention qu'à son jeu et il continua à compter lentement 9, 10, 11, 12, 13. Il manqua le 14e et jurant « Nom de Dieu de 13 ! Il me porte toujours la guigne, ce bougre-là ! Je mourrai un 13 certainement !» Un des rédacteurs qui avait fini sa besogne prit à son tour un bilboquet dans l'armoire. C'était un tout petit homme qui avait l'air d'un enfant, bien qu'il fût âgé de 35 ans. Et plusieurs autres journalistes étant entrés, ils allèrent l'un après l'autre chercher le joujou qui leur appartenait. Bientôt, ils furent 6. Côte à côte, le dos au mur, qui lançait en l'air d'un mouvement pareil et régulier les boules rouges, jaunes ou noires, suivant la nature du bois. Et une lutte s'étant établie, les deux rédacteurs qui travaillaient encore se levèrent pour juger les coups. Forestier gagna de 11 points. Alors le petit homme, à l'air enfantin, qui avait perdu, sonna le garçon de bureau et commanda « 9 bocs !» et ils se remirent à jouer en attendant les rafraîchissements. Duroy but un verre de bière avec ses nouveaux confrères, puis il demanda à son ami « Que faut-il que je fasse ?» L'autre répondit « Je n'ai rien pour toi aujourd'hui, tu peux t'en aller si tu veux. » « Et notre article, est-ce ce soir qu'il passera ?»« Oui, mais ne t'en occupe pas, je corrigerai les épreuves. Fais la suite pour demain et viens ici à 3 heures, comme aujourd'hui. » Et Duroy, ayant serré toutes les mains sans savoir même le nom de leur possesseur, redescendit le bel escalier, le cœur joyeux et l'esprit allègre.